Canale Inter. Le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'Inter Milan. Actualité, histoire, grands entretiens. Au micro, des podcasts et live 100% Nerazzurri, Cédric Canale et Giuliano De Pasquale.
Et ciao à tous, ciao à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Canale Inter, un épisode dédié au match contre la Roma. Donc l'Inter a gagné 1-0 avec le fameux retour de Lukaku à San Siro. Alors cet épisode va être coupé en deux, une première partie avec Cédric où on va parler du côté Inter, du côté aussi de l'ambiance puisque Cédric était au stade à chaque match. Et puis une deuxième partie avec notre invité Rabal, donc le romaniste très connu de Twitter, très impliqué, avec qui on reviendra sur ce match et on parlera du côté romain du coup. Alors, tout d'abord, on va parler de l'Inter. Donc, ciao Cédric.
Salut Giuliano, salut à tous.
Alors, donc, t'étais au match, tu as vu les fameux sifflets. Déjà, on disait que les sifflets étaient interdits. Est-ce qu'au final, c'était vraiment des sifflets ou c'était l'application qu'on entendait?
Alors, il y avait un peu de tout, je pense. Effectivement, les sifflets étaient interdits. Alors, ils étaient interdits la veille du match. La Cour Vanor avait déjà acheté et reçu les 30 000 sifflets. Ils ont été distribués avant le match, puisqu'il n'y a pas d'interdiction de distribuer des sifflets, puisque c'était à l'extérieur du stade, donc c'était distribué. Certains sont entrés. A priori, de ce que j'ai lu, il y aurait eu quelques personnes qui, dans le stade, ont été interpellées. Et voilà, alors est-ce qu'il y a eu des amendes? A priori, l'amende pouvait aller sur les 100 euros, des choses comme ça, ce qui était un peu élevé. Mais bon, j'ai pas eu de vérification. Mais a priori, des personnes, en tout cas, ont été interpellées et à minima ont dû rendre les sifflets dans le stade. Alors, il y avait des sifflets de personnes. Oui, il y avait de l'application. Puis, il y en avait la vieille école, tu sais, avec les doigts.
Ah ouais.
on peut pas interdire les doigts. Donc, on va couper les mains aux gens. Donc, voilà, il y avait un petit peu les trois écoles. Ce qui est sûr, c'est que lorsque Lukaku est entré sur la pelouse pour l'échauffement, il y a vraiment eu des sifflets très très forts, une bronca très forte, surtout qu'il était sur l'écran géant. Alors il a eu un petit sourire au début. Ensuite, lors de la composition des équipes, la seconde où il y a eu Nov et Romelu Lukaku, très gros sifflet. Et puis à chaque fois que le ballon était dans son périmètre, sans qu'il le touche,
un périmètre de 5 mètres au moins.
C'est ça, voilà, il y avait une sorte de périmètre de sécurité de 5 mètres. Et dès que le ballon approchait de Lukaku, même s'il ne le touchait pas, ça sifflait.
Ouais, ça s'entendait bien à la télé. J'imagine pas au stade. Et donc, ensuite, à la 90e, je pense, dans les arrêts de jeu, c'était aussi le carnage.
Voilà, là, c'était plus Lukaku, là, c'était tout le stade. Pas tout le stade. D'ailleurs, je voudrais faire une petite distinction. Les sifflets venaient quasiment de tout le stade, sauf la Cour Vanor qui, pendant tout le match, alors dans l'avant-match, a sifflé Lukaku, a fait un chant contre Lukaku, a fait un chant pour Thuram, pour les opposer. Et d'ailleurs, le match les a bien opposés dans le résultat. Mais la Cour Vanor, dans le reste du match, ensuite, a encouragé l'équipe. Il n'y a pas eu vraiment de sifflet de leur part. C'était les chants habituels. C'est plus le reste du stade qui était contre Lukaku et qui sifflait à chaque fois qu'il touchait le ballon. Donc, il y a un petit peu ces deux sons de cloche. Après, c'est vrai que dans les arrêts de jeu, il y a quasiment tout le stade qui sifflait, que ce soit avec les sifflets, avec l'application, la Roma qui avait la balle pour tenter une dernière occasion. Et c'était assez vraiment assourdissant pour le coup.
Et il y a eu aussi cette poignée de main, donc comme à chaque début de match. Et Lukaku, lui aussi, était très surveillé. Et on a vu donc il commence avec Lautaro, il veut essayer de lui faire une accolade, Lautaro ne répond pas. Ensuite, il y a Barella, on ne sait pas bien voir, il y a deux angles de caméra. Apparemment, il lui tape quand même dans la main et après, Barella baisse vite la main. Et après, on voit que Lukaku tend la main vers le haut, il ne la bouge plus et il avance comme ça. Et on voit qu'il effleure à peine Acerbi. Donc, c'est comme s'il évitait de taper dans la main d'Acerbi. On voit Acerbi qui tourne la tête après pour dire qu'est-ce qu'il fout. Mais là, je pense que c'est plutôt pas fait exprès parce qu'il se dit « Ok, je vais lever la main et… » Celui qui touche, il touche. Celui qui touche pas, je m'en balèque. Et il n'a pas fait exprès de juste effleurer la main d'Acerbi, quoi. Mais justement, à ce moment-là aussi, il y avait des sifflets ou quelle était un peu la réaction du stade?
Oui, il y a eu des sifflets. Donc, à l'entrée des équipes, il y a eu des sifflets. Surtout que c'est la Roma qui a donné le coup d'envoi. Donc, il était au centre. Ensuite, Lukaku, il a attendu à peu près une minute, comme ça se fait normalement, tant que l'arbitre check avec ses assistants, que la réalisation télé soit prête et compagnie. Donc, pendant une minute, il n'y avait par exemple que des sifflets parce que Lukaku était à 30 cm du ballon. Et donc, c'était assez, là aussi assez assourdissant. Après, il faut quand même noter que le comportement de Lukaku, donc il y a eu ce petit rire au début pendant l'échauffement. Après, pour le reste, il n'a rien fait de particulier. Il a été remercié, les supporters de la Roma à la fin. Là aussi, il y a eu des sifflets contre lui de tout le stade. Pour le reste, il n'y a rien eu de particulier de sa part. Il n'y a pas eu de geste, il n'y a pas eu de... Alors, on ne sait pas, du coup, puisqu'il n'a pas marqué, on ne sait pas comment il aurait célébré, mais pour le reste, c'est vrai qu'il a rien fait de particulier, quoi. Il a essayé, c'était un joueur, on va dire, normal dans son comportement.
À la fin, j'ai vu que Thuram allait célébrer avec les supporters et il s'est fait embrouiller, je pense, par Cristante. Non, ah non, par Belotti. Par Belotti.
Oui.
Et t'as vu ce qui s'était passé? Pourquoi est-ce qu'il s'est fait embrouiller comme ça? Parce que j'ai l'impression que juste lui, il allait célébrer dans son coin. Et après, Belotti l'a rattrapé. Donc, je ne sais pas si on a vu quelque chose.
Alors, effectivement, il y a une incompréhension. Alors, je ne sais pas, ce que j'ai vu, c'est que Lukaku, d'ailleurs, notamment, a été chercher son coéquipier, comme d'autres, pour. Puis là, il a porté loin. Donc, il y a eu une petite embrouille, sûrement. Je ne sais pas, ils ont une incompréhension entre eux. Il y avait un petit peu d'énervement, puisque le but a lieu sur la fin, que les joueurs de la Roma ont fait un match très, très défensif. On y reviendra. Donc, le côté un peu sacrifice pour tenir le 0-0. Donc, je pense que c'était plus sur le moment. Et d'ailleurs, Barella, après avoir fêté avec ses coéquipiers devant la Courva, a couru pour aller saluer tous les joueurs de la Roma. Donc, ça fait partie des petits gestes comme ça. Souvent, on parle de Barella, de son comportement. C'est un joueur, malgré tout, qui, pendant le match, est assez nerveux. Mais à la fin du match, tout de suite, c'est souvent le premier qui va saluer les adversaires. Il l'a encore fait hier, d'ailleurs.
Et donc là, on va parler plutôt du match en tant que tel. Donc, je répète, l'Inter a gagné 1-0 sur un but de Thuram à la 80e. Et après un match à sens unique, j'ai envie de dire. Et on a eu peur. On a eu peur de pas marquer parce que les occasions étaient vraiment présentes et ça voulait pas rentrer. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe, de ce match, Cédric? Moi, j'ai envie de dire que l'Inter n'a rien lâché et c'est vraiment ce qu'il faut retenir, quoi. C'est que l'Inter a joué son jeu. Même après avoir marqué, ils ont continué à jouer leur jeu. Ils n'ont pas laissé la Roma revenir ou quoi que ce soit. Donc moi, je retiens à la fois les 3 points, évidemment, et aussi cette mentalité.
Moi, je suis d'accord avec toi parce que il y a, je crois, la première mi-temps, c'est 11 tirs à 0. Sur l'ensemble du match, l'Inter, c'est 3 tirs cadrés, 2 transversales. La Roma, c'est 1 tir cadré. Bel arrêt de Sommer, d'ailleurs, il faut le préciser, parce que la Roma aurait pu faire un braquage, comme ils en ont assez souvent l'habitude. Ils ont une occasion, mais ça peut faire but. Effectivement, ce qu'il y a à retenir, c'est la concentration. Il n'y a pas eu d'effet Lukaku sur les joueurs. On a vu tout le monde faire son match, il n'y a pas eu d'énervement. Il était bien isolé par Acerbi, puisque Lukaku, dans le match, c'est 26 ballons touchés. Il en perd 9. Il gagne seulement 4 duels, 0 ballon touché dans la surface. Donc, c'est des chiffres assez impressionnants. Et d'ailleurs, la Roma a touché seulement 2 ballons dans la surface adverse. C'est leur pire total depuis janvier 2016.
Ah ouais, quand même.
C'est quand même assez impressionnant. Donc, c'est au-delà de Lukaku ou du reste. Vraiment, la Roma fait... Alors, il y a beaucoup d'absents pour la Roma. On en reparlera avec Rabal tout à l'heure.
Ouais.
Mais au-delà de ça, c'est vrai que l'Inter a fait son match, a eu les occasions... ne s'est pas énervé, c'est peut-être ce qu'on va retenir. Il n'y a pas eu ces moments un petit peu où l'équipe va en tilt parfois quand le résultat ne vient pas. Il y a eu cette maîtrise. Et puis on peut peut-être parler des changements aussi qui selon moi ont été bons, alors peut-être un petit peu conditionnés aussi par les cartons, notamment pour Çalhanoğlu, Aslani. Mais le fait qu'Aslani entre et Aslani fait l'ouverture, une seule ouverture pour Di Marco qui n'est pas sorti alors qu'on a l'habitude de le voir sortir à l'heure de jeu et que beaucoup attendaient l'entrée de Carlos Augusto, moi le premier d'ailleurs. Il n'a pas touché Thuram et Lautaro aussi devant, alors souvent il en enlève un pour mettre Alexis, là il a laissé les deux et Thuram marque. Donc voilà, il y a aussi ces changements qui, pour une fois en tout cas, montrent plutôt une bonne lecture du match, qui est à noter.
Ouais, moi je suis d'accord, parce que déjà t'as Pavard qui sort à la mi-temps pour Darmian, pour son carton jaune, on sait la phobie d'Inzaghi pour les cartons jaunes, et ensuite Mkhitaryan qui laisse sa place à Fratesi. Ben, logique, parce que Mkhitaryan, je trouvais qu'il n'était pas très impactant dans le milieu. Et comme tu as dit, Çalhanoğlu qui sort pour Aslani, principalement pour son carton jaune. Et après, Carlos Augusto qui rentre quand il faut y aller, quoi. Il faut, à ce moment-là, c'est à 83e, on a marqué le but. Il faut continuer d'attaquer et il faut aussi défendre. Donc, il faut un peu plus de jus. Et je pense que c'est un bon choix d'avoir fait rentrer Carlos Augusto à ce moment-là. Et à la fin, de vrai, pour Dumfries, aussi pour être sûr de... Ouais, c'est, être sûr qu'on est bien armé derrière et qu'il n'y a pas de, comment, il n'y a pas de crampes ou quoi que ce soit. Donc, ouais, pour le coup, j'ai trouvé que les changements d'Inzaghi étaient très bons et oui, il n'a pas beaucoup de solutions en attaque, mais il a vraiment gardé Lautaro et Thuram jusqu'à la fin pour dire, il voyait que ça allait tomber. On s'est tous dit, à un moment, ça va finir par tomber. On enchaînait tellement les occasions et sur des phases construites, quoi. Lautaro et Thuram faisaient des bons matchs. Donc, je ne sais pas si mettre Sanchez, ça aurait été une bonne solution. Ça aurait été plus un effet de panique, je pense. Et là, Inzaghi a vraiment gardé son calme et il a fait les justes changements et ça a payé.
Alors, je pense aussi qu'il les a fait parce que je pense qu'Inzaghi est un entraîneur qui est beaucoup dans la programmation. Et là, il n'y a pas de match à milieu de semaine. L'Inter a joué il y a 5 jours et a 6 jours pour préparer le prochain match. Et donc, je pense que ça a aussi compté dans sa tête parce qu'on a vu des matchs comme contre Bologne ou n'importe où il fait des changements. On a l'impression un peu automatique, même si le score ne va pas bien. Mais il va sortir Thuram pour mettre Alexis parce que Thuram est un peu fatigué et qu'il y a un nouveau match dans 3 jours. Donc il est un peu dans cette à se projeter un petit peu. Là, il ne s'est pas projeté. Il a fait le match ben, comme si c'était un match de coupe en quelque sorte, en se disant voilà, c'est le match, on a le temps de récupérer, tout va bien. Effectivement, il n'a pas touché l'attaque. Le fait que Thuram marque alors que habituellement Thuram sort après 1 heure de jeu pour Alexis, c'est un petit peu le symbole. Et pareil pour Di Marco, on a l'habitude encore une fois qu'il sorte après 1 heure de jeu. Là, il a fait plus et il fait encore une superbe passe pour Thuram, donc c'est voilà, on va dire que le défaut habituel d'Inzaghi était un petit peu aussi gommé par le fait qu'il n'y ait pas de match dans quelques jours.
Et ce match aussi où on a vu deux lattes, on a vu une latte en première mi-temps de Çalhanoğlu sur vraiment une super frappe qui me rappelait un peu celle de Thuram, moins excentrée. Et en deuxième mi-temps, bah, Carlos Augusto qui met une frappe flottante, enfin, Rui Patricio n'aurait rien pu faire. Donc ça aurait été incroyable de mettre ses buts. Il y a aussi eu cette intervention notable de Rui Patricio sur Thuram en première mi-temps, il me semble, où il y a un petit cafouillage dans le rectangle et Thuram voilà, arrive à pousser le ballon et Patricio lâche un réflexe et il arrive à sortir le ballon. Donc c'était vraiment un match quand même intense, même si c'était à sens unique. Et j'ai vraiment bien aimé. Comme il y avait quand même de l'idée, je trouvais, dans les phases offensives. Évidemment, on a toujours cette envie de centrer maintenant un peu en rafale, mais ça envoyait les ballons dans la profondeur en utilisant les pistons, ça combinait devant le rectangle, ça tentait des tirs de loin. Je trouvais qu'il y avait, c'était assez varié dans les tentatives et c'est plutôt une bonne chose pour pas avoir un jeu stéréotypé comme on pouvait le blâmer plusieurs fois ces dernières fois, quoi.
Non, mais effectivement, c'est vrai que voilà, alors encore une fois, c'est que la Roma avait beaucoup d'absents, avait joué il y a 3 jours. Il y avait beaucoup d'excuses pour la Roma, pas pour être à ce point aussi faible, enfin ne rien proposer. En tout cas, l'Inter, on voit cette saison. Alors, il y a eu les matchs contre Sassuolo et Bologne, des petites alertes, mais je trouve quand même qu'il y a un petit peu plus de continuité. Il y a du progrès dans ce groupe, je trouve, dans la gestion des matchs, dans la gestion des enchaînements des matchs d'après Ligue des Champions, parce qu'on se souvient l'an dernier, c'est le gros problème. De mémoire, je crois qu'il y a eu 6 défaites sur les 12 matchs d'après Ligue des Champions. Donc là, on voit que l'équipe maîtrise mieux aussi cet enchaînement-là, et on sait que ben, c'est le plus important, parce que si tu veux être champion, c'est bien de battre le Milan, c'est bien. Et on en reparlera parce que le calendrier de l'Inter va aller un petit peu plus. Dans des matchs difficiles, puisque dans les prochaines semaines, il y aura l'Atalanta, la Juve et le Napoli à jouer. Mais voilà, il faut gagner tous les matchs. Donc là, la Roma, c'est un match important, parce que tu es à domicile, parce que mine de rien, l'Inter, c'est déjà son 6e match à domicile aussi sur 10. Ça compte aussi, mine de rien, c'était un calendrier plutôt favorable aussi là-dessus, hein, ce début de saison. Donc voilà, c'est aussi pour ça, pour tous ces petits points-là, que c'était vraiment important d'arracher ces 3 points aujourd'hui.
Après, justement, c'est à domicile qu'on est le moins fort cette saison.
C'est vrai que c'est un 4 sur 4 à l'extérieur pour l'instant, c'est qui est assez à noter. Mais bon, c'est pareil, l'adversité à l'extérieur pour l'instant, c'était des matchs plutôt abordables, on va dire. Il n'y a pas eu de gros déplacements encore.
Alors, on va faire un point du coup sur le calendrier. Comme tu as dit, il y a l'Atalanta samedi. Il va y avoir le quatrième match de Ligue des Champions mercredi, donc mercredi 8 novembre. Ça va être à Salzbourg et il faut dire que si l'Inter gagne, ils sont qualifiés. Ils ne sont pas premiers, mais ils sont qualifiés. Et ensuite, on a ce match contre Frosinone. Après, il y a une pause d'une semaine. Et le 26, c'est contre la Juve. On enchaîne à Benfica et on enchaîne de nouveau contre le Napoli à Naples.
Voilà, ben je te disais juste avant, il y avait jusqu'ici peu de déplacements compliqués. Ben là, il y en aura trois de suite en championnat, parce que aller à l'Atalanta, aller à Turin et aller à Bergame, aller à Turin, aller à Naples, ça va être trois gros déplacements. Très clairement, avec la Ligue des Champions au milieu, ce serait plutôt bien d'aller gagner à Salzbourg. Comme ça, le match contre Benfica, qui se situe entre les déplacements contre la Juve et le Napoli, pourrait peut-être permettre de, même si la première place est importante, en tout cas peut-être de faire tourner un petit peu. Benfica qui sera sûrement déjà éliminé à ce moment-là. Donc voilà, c'est vrai que ça va être vraiment intéressant de voir l'Inter, bah déjà dès samedi, parce que l'Atalanta, on sait, c'est une équipe qui réussit bien à l'Inter, mais c'est toujours des matchs très très accrochés contre l'Atalanta de Gasperini. Donc je me souviens l'an dernier, c'était un match 3-2 avec pas mal de rebondissements, par exemple, juste avant la trêve pour la Coupe du Monde. Donc voilà, ça va être un match important aussi parce que le Milan a perdu 2 points sur l'OS de Naples ce dimanche soir, alors que la Juve de son côté ben, enchaîne toujours des victoires 1-0, 1-0, cinquième match de suite sans prendre de but. Ça se dégage vers une lutte à 3 pour le moment pour le Scudetto. Donc encore une fois, ces matchs-là vont être importants pour ne pas perdre de points parce que la Juve sans Europe va être très dangereuse cette saison.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Et le Milan, même si ça reste bancal, ça reste quand même une équipe compétitive et qu'il ne faut certainement pas sous-estimer. Et on va voir, hein, aussi Naples, c'est vrai que c'est un peu tendu avec Garcia. Est-ce qu'il va être viré? Il va pas être viré. En tout cas, il s'est sauvé hier. Mais c'est aussi à surveiller, voir si Naples fait une remontée pendant la saison ou pas. En tout cas, c'est vrai qu'on se dirige vers une compétition à trois. Enfin, une course à trois pour le Scudetto, mais je pense qu'il faut vraiment pas encore laisser Naples de côté pour ça. Bah, merci beaucoup Cédric pour ta vision du stade et nous, bah, on va continuer ce podcast avec Rabal.
Merci à toi, Giuliano. Un petit salut à Rabal, à notre ami Rabal de Roma Locuta, et puis à très bientôt.
Ciao ciao.
Avanti con questa battuta lunga di Aslani per Di Marco, buono il controllo, cerca di andare al cross, traiettoria, Turam, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, Turam, grande azione, Aslani, Di Marco, Turam, e l'Inter in vantaggio, al minuto 35.
Et voilà, donc maintenant on passe à la suite de ce podcast avec Rabal. Salut Rabal.
Bonjour à tous et merci de l'invitation.
Alors, Rabal, toi, tu es, enfin, on te présente pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, de Roma Locuta sur Twitter. Est-ce que tu peux un peu déjà présenter ton projet, voilà, ce que tu fais, parce que tu es quand même très actif dans la communauté des Giallorossi.
Eh bien, depuis 2019, je réalise des vidéos sur YouTube. Alors, moi, la plateforme, mon train-train quotidien, c'est YouTube avec les débriefs d'après-match, les live-match et puis l'actualité de la Roma. Et je travaille en collaboration avec Est Roma Francophone et Amoroma.fr. Donc voilà, en fait, on a voulu travailler main à la main et englober le tout pour créer un unique réseau vraiment complet autour de la Est Roma en français. Que ce soit l'actualité sur Twitter, la grosse page Facebook sur les francophones, le blog qui est complet d'actualité au quotidien. Et puis après, il y a aussi Instagram pour l'actualité vidéo le lundi soir et le YouTube voilà, qui sont très actifs.
Alors du coup, on va revenir sur ce match parce que là, voilà, je lis la première partie, voilà, on l'a faite avec Cédric. Ici, donc on va faire ça tous les deux. Qu'est-ce que tu as pensé simplement de ce match, tout simplement?
Alors, ça n'engage que moi parce que hier soir et ce matin, les commentaires de la communauté divergent. Donc, moi, personnellement, j'ai trouvé un match qui était assez agréable à regarder. J'ai d'ailleurs fait un live match avec Gualtiero, qui est aussi interiste. On a passé un très bon moment et on a vraiment apprécié. Voilà, lui comme moi, hein, on était d'accord sur le principe que le match était agréable à regarder. Après, le fond, ben oui, l'Inter a montré que c'était eux qui faisaient le jeu, c'était à eux d'ailleurs de pousser, de prendre les voilà, sur leur terrain, de prendre les 3 points. Et la Roma, voilà, clairement, elle était venue pour l'objectif, c'était le point du nul, quoi. Donc, à moins d'un miracle divin, c'est ce que je dis depuis hier soir. Voilà, c'est et donc. Voilà, il arrive ce qu'il arriva avec ce but de l'Inter à la 81e. Donc, mais voilà, un bon match, hein, dans l'ensemble. Ça se laissait regarder.
On va quand même rappeler qu'il y avait quand même pas mal d'absents du côté de la Roma. Tu peux faire un petit
Oui.
tour de ceux qui étaient absents?
Eh bien, le capitano Lorenzo Pellegrini, qui est absent, lui, il était sur une absence d'une durée de 1 mois. Paulo Dybala qui n'était pas disponible, donc il va encore s'entraîner pour revenir dimanche prochain contre Lecce. Smalling qui a encore des soucis au pied. Spinazzola qui était out, on l'a appris en milieu de semaine. Je crois que c'est tout. Le coach qui n'était pas sur le banc aussi, bon, il n'est pas blessé, mais donc ouais, et ça fait et Renato Sanchez, mais lui voilà, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, dès qu'il est opérationnel, Mourinho le fait jouer, il joue une mi-temps, il ressort, et en fait, babam, ça retombe, quoi.
Bah, c'est
Donc,
l'histoire de sa carrière,
voilà.
Sanchez.
C'est l'histoire de sa carrière. Donc là, en fait, là, vraiment, je pense que la Roma prend vraiment le temps et les précautions avant de le remettre sur le terrain. Mais ouais, c'est 5 joueurs notables qui sont très, très importants et qui ne sont pas là.
Ouais, et
Et
ça
le
s'est
coach.
vu. Ouais, voilà. Et du coup, comme tu dis, ça s'est vu sur le terrain. J'ai trouvé qu'il y avait quand même une. Tu l'as dit. Enfin, on l'a dit même plus tôt qu'il y avait une supériorité de l'Inter. C'était assez flagrant. Et surtout, au milieu de terrain, j'ai trouvé que voilà, ça avait du mal à se sortir comment de l'étreinte, si tu veux, côté Roma. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Non, mais ben oui, la Roma, ils étaient venus clairement poser les bases de la défense, quoi qu'il arrive. Et puis, si on a des contre-attaques et que ben, ça peut passer sur un bon coup, un miracle, Lukaku, El Shaarawy en attaque, bon ben voilà, El Shaarawy, première mi-temps, on l'a pas trop vu, quoi. Alors Lukaku, on l'a plus vu parce que forcément, en plus de ça, il y a l'effet média, quand il revient à l'Inter, donc forcément, tu vois, là, Lukaku, il est assez imposant, on sait qu'il est là, mais El Shaarawy, on l'a pas vu. La cohésion entre la liaison avec le milieu, l'attaque ne fonctionnait pas ce soir. Et clairement, il fallait bétonner pour repartir avec le point du nul. Alors, ce qui est dommage, c'est que Llorente, Ndicka, et Mancini, ils ont fait un bon match physique. J'ai vu un commentaire de toi concernant Mancini, mais qui aurait mérité 50 millions de cartons jaunes. Mais voilà, sinon, si on enlève cette partie-là, ils ont quand même la défense a fait un match physique et très important. Mais le milieu, l'attaque, pas là, quoi. Ils n'étaient pas au rendez-vous, clairement. Et on était monté pour bétonner, quoi.
Ouais, la seule action notable, bah, c'est cette tête de Cristante sur
Ouais, ouais.
comment il prend le dessus sur Bastoni, et là Sommer doit sortir une parade de félin.
J'ai que ça en tête, oui,
Ouais.
il y a eu 3-4 tirs de la Roma
À un moment, j'ai vu qu'il
contre
y a...
10, contre 19 de l'Inter.
Ouais, c'est ça. À un moment, j'ai eu quand même un peu peur parce qu'il y a eu une action de El Shaarawy où Bastoni, bah, de nouveau, se fait avoir. Il lui fait un crochet à l'entrée de la surface. Et je me suis dit, c'est quand même un coup franc intéressant. Dybala, s'il était là, bon, c'est un gaucher, donc il n'aurait pas tiré à cet endroit-là, peut-être, ou peut-être différemment. J'ai eu un peu
Il aurait
peur
dû
sur.
Pellegrini aussi,
Ouais, c'est vrai.
s'il avait été là.
Mais j'ai eu un peu peur vu la position du coup franc. Et au final, il a mal été géré. Donc, ouais, même les occasions, comment les moments où la Roma aurait pu faire quelque chose, j'ai trouvé que c'était un peu gâché, quoi.
C'était totalement gâché, et malheureusement, alors moi j'avais un petit espoir, hein, j'étais un petit peu. Mais non, là, clairement, après, voilà, il faut aussi revenir sur le fait que 5 joueurs absents, coach absent. Préparation aussi par rapport à la Ligue des Champions et l'Europa League. On avait en effet que 2 jours, 2 jours et demi de prépa. Ça aurait pu se jouer ce soir, le lundi.
Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Moi je suis d'accord que ça aurait dû se
Vous
jouer
étiez plus frais.
lundi, parce qu'en plus il n'y a pas de match en semaine ici, donc ça aurait pu aller. On joue l'Atalanta samedi, on aurait quand même la semaine pour préparer. Donc moi je trouvais que c'était
Alors après,
plus équitable, mais
est-ce
bon.
que alors ça doit encore venir de problèmes de droit d'auteur, de droit de diffusion, pardon, droit de diffusion d'images et de chaînes. Parce que, bon, après, il y a un gros match aussi ce soir entre la Lazio et la FIO,
Ouais,
Fiorentina.
c'est vrai.
Il y a un deuxième match aussi, Tanta aussi. Donc du coup, est-ce qu'un troisième match, ça aurait pas perturbé les diffusions? Donc je sais pas.
Ouais, certainement, il doit avoir une histoire de ça, ça m'étonnerait vraiment pas.
La sécurité aussi. La sécurité peut-être
Ouais.
aussi. Peut-être que c'était aussi un match en jeu avec de la sécurité. Donc c'est vrai que maintenant on met les matchs à 18h. On le voit notamment pour le Roma Lazio, Lazio Roma. Hein. Depuis quelques années, maintenant c'est à 18h les dimanches hein, pour la sécurité. Donc je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'ils voulaient jouer ce match-là. Je sais pas, mais en attendant, ouais, c'est vrai qu'on n'était pas frais. Hein. La Roma, on l'a vu sur 90 minutes, c'était très compliqué vers la fin. Et le but, Cristante l'a dit aussi, c'est dommage, sur une seule erreur, une erreur, parce que défensivement, on a bien bétonné, ils étaient bons. Une erreur, et voilà, ça paye cash pour avoir d'autres points, quoi.
Ouais, c'est vrai que ça aurait pu tomber quand même à n'importe quel moment, vu le nombre d'occasions, et c'était pas des timides occasions, c'était pas les plus franches non plus, hein. C'est pas qu'il y a eu des face-à-face ratés ou quoi que ce soit, mais allez, la reprise de Di Marco, je pense que c'est en première mi-temps, il y a eu la latte de
De
Çalhanoğlu,
transversal.
ouais, la latte aussi
Ouais.
de Carlos Augusto. Donc voilà, il y a eu ces moments. Est-ce que toi, tu te disais ça va finir par tomber, ou alors tu disais que on va le faire, on va accrocher le nul?
Moi, alors, c'est vrai que la première transversale, ça a été le. Il y a eu une ou deux signaux d'alerte. Mais après, quand on a fini la première mi-temps, qu'on est rentré en deuxième, la Roma s'est un peu plus réveillée. Mais franchement, j'y croyais. Hein, j'y croyais jusqu'à la 80e, j'y croyais. Hein, je me suis dit, allez, c'est bon, voilà, on va le faire, nul, on est là pour ça. Et j'ai pas trouvé non plus. Alors, beaucoup de messages qui disent que. Alors, il n'y a pas de jeu. Ok, oui, certes, il n'y a pas de jeu, qu'on a été lamentable, que c'est la pire Roma depuis des décennies, que Mourinho est en train de flinguer la Roma. Chacun a ses avis. Moi, je pense que maintenant, il faut prendre la Roma match après match, maintenant. Voilà, c'est comme ça. Mourinho, et le problème, c'est qu'il ne peut pas faire autrement, il a ses blessés, tout ça. Et donc, du coup, ce match-là, il fallait le prendre dans le sens au moins pour le point du nul. Et j'y croyais. Sincèrement, j'y croyais. Et voilà. En plus, Llorente est indiqué. Mancini, ils ont fait un bon match. Llorente, il a fait un bon match. Il a fait des choses très, très intéressantes. Même Ndicka, qui est à Monza, il s'est fait un petit peu bouger en début de match. Il n'était pas serein. Finalement, jeudi soir, contre Slavia Prague, il a fait un bon match très, très correct. Ça donnait une. Et là, hier, ils ont fait un bon match. C'est vraiment arrivé au. Alors, si on se prend un but à la 10e, à la 20e, 30e, et là, tu te dis, bon, bah, éventuellement, sur un éclair de génie de Lukaku, on peut toujours, El Shaarawy, on peut toujours remonter, mais là, à la 80e, là, ça te met un coup. Et en plus, l'Inter a poussé derrière. Hein.
Oui, c'est vrai que
L'Inter voulait mettre un deuxième.
et c'est ce que je saluais aussi dans la première partie de ce podcast, c'est que l'Inter a continué à jouer, a tenu le rythme, et alors que c'est ce qu'on pouvait reprocher à l'équipe d'Inzaghi pas mal de fois, c'est que après avoir marqué, bah, l'équipe ne joue plus. Alors que là, ils ont continué à jouer, ils n'ont pas laissé la Roma trop revenir, parce qu'évidemment, bah, la Roma n'avait plus rien à perdre. Donc ils ont commencé à pousser, mais j'ai trouvé que la réaction, le mental de l'équipe des Nerazzurri était vraiment vraiment au top. Donc je suis vraiment content de ça, et j'étais un peu étonné qu'on joue comme ça. Voilà, ça montre peut-être un gain de maturité de l'équipe, mais à confirmer, c'est pas encore trop ça. Moi, je voulais revenir aussi avant de conclure sur Mourinho. Je vois qu'il a assez décrié en ce moment. Est-ce que pour toi, à quoi à quoi tient son futur à la Roma maintenant?
Il tient à son contrat. Et c'est clair et net que. Alors là, je réponds à ta question grâce au classement. Hein. Là, la Roma, aujourd'hui, sont 8e. La Lazio, éventuellement, ce soir, peut passer devant. Bon, la Fiorentina est devant, donc on n'en parle pas. Mais la Lazio, éventuellement, ce soir, peut passer devant. Donc ça mettrait la Roma 9e. Et il y a aussi un autre match qui est Empoli-Atalanta. Donc l'Empoli, ils sont 17e, bon, allez, on n'en parle pas. Donc là, c'est pas non plus catastrophique. En soi, c'est vrai que le point du nul aurait été bien. Là, en état, c'est pas catastrophique. L'Inter est à la course au top, à la première place, au Scudetto, là, à l'instant T. Donc Mourinho, il faut battre absolument Lecce week-end prochain. Et on n'est pas non plus largué, parce que je vois que 18 points, 17 points, 16 points, 15 points, on a 14 points, donc ça va, c'est pas non plus la catastrophe. Et puis, Mourinho, alors ça dépend de beaucoup de choses. En Italie, les romanistes en Italie, ils ne sont pas non plus très virulents envers Mourinho. Il y en a certains qui commencent à désespérer, et il y en a d'autres qui sont encore derrière le Mister. C'est surtout la communauté francophone qui est très, qui en a, qui en a commencé à en avoir un peu marre de Mourinho. Donc on n'a pas les mêmes attentes, les Français, enfin les francophones
Non, mais
et
ça,
les
c'est pour tous
Italiens
les clubs, hein.
là-bas.
C'est pour tous les clubs, hein. Que ce soit Milan avec Pioli, l'Inter avec Inzaghi, sauf Allegri, je pense que tout le monde est unanime dans la communauté de la Juve,
Ouais, ça, on est tous unanimes. Même les communautés extérieures sont tous unanimes.
mais vraiment, comme tu dis, il y a une différence entre la communauté francophone et italienne. Mais vas-y, continue.
Voilà, c'est ça. Donc, moi, je vois beaucoup de Pioli out, tout ça, alors que je sais pas ce que les Milanistes veulent. Enfin, bref, on n'est pas sur ça. Mais oui, donc, Mourinho, je pense pas. De toute manière, même si il aurait encore deux, trois matchs. Ça passerait encore. Il faudrait vraiment qu'on soit lanterne rouge, qu'on aurait continué à être lanterne rouge pour peut-être éventuellement un limogeage. Lui, il ne compte pas partir. Il a dit qu'il partirait pas. Là, il n'y a pas de question à l'heure actuelle. Il ne faut pas non plus trop s'alarmer. On est premier du coup de l'Europa League. On est 8e actuellement, mais ça va. On n'est pas non plus largué. Et donc voilà, la tête de Mourinho n'est pas sur le pilori à l'heure actuelle. Hein, et puis le contrat, je pense pas qu'il va renouveler l'année prochaine, hormis une surprise, genre il ramène l'Europa League plus la Coppa Italia et il finit dans le top 4. Là, ça serait fantastique. Alors peut-être il re-signerait pour une ou deux saisons supplémentaires. Mais là, c'est pas l'ordre du jour là. Donc non, il n'est pas en cause.
Ouais,
Pas
après,
mis en cause.
c'est vrai que c'est compliqué de renvoyer un coach comme
Et
Mourinho.
tu
Ouais.
es. J'ai même pas envie de connaître l'indemnité de licenciement de Mourinho, là. Donc la Roma pourrait pas se le permettre. Et après, prendre qui? Et parce que il faut. Le problème, c'est qu'il a pris Mourinho. C'était un coach de stature internationale. C'est dans les top 5, top 10 des meilleurs entraîneurs du monde. Et on prend qui? Donc, c'est ça le problème.
C'est ça, et il fait pas du mauvais travail globalement avec ce qu'il a. Il faut voir aussi ce qu'il a à disposition.
C'est
Et lui,
ça, il commence.
il est le premier à s'en plaindre aussi.
Il s'est toujours plaint, Mourinho, pour bien s'en plaindre. Il le savait aussi qu'en mettant les pieds à la Roma, il n'aurait pas une bourse
Ah oui, il n'est pas au Real, hein.
parmi
Il n'est plus au
les
Real.
meilleures. Il est pas en Angleterre, il est pas dans un top club où ça dépense des sous. La Roma a encore beaucoup de dettes à éponger par rapport aux années précédentes. Donc il a pas on n'est pas en Ligue des Champions, donc il n'a pas l'enveloppe nécessaire. Les joueurs qui sont arrivés là, c'est tous des fins de contrat ou des prêts. Donc, il peut pas. Mais après, si tu regardes sur le papier, la Roma n'est pas dégueulasse, hein. Ils ont de très très beaux noms.
Ah,
Le
du tout?
problème,
Ah
c'est que
oui, moi
ce
je suis
sont des noms
d'accord.
qui physiques. C'est le physique. C'est le problème, c'est que c'est le physique. qui a du mal à tenir la route, avoir c'est un joueur qui est très très bon mais qui peut arriver à être blessé. Renato Sanchez très bon mais il est blessé. Smalling bon mais là il a vraiment du mal à revenir. Il nous a fait 3 saisons superbes, là il a des problèmes au pied. Dybala
Dybala,
ben
pareil, ouais.
c'est le Fury class mais il est tout le temps blessé. Lorenzo Pellegrini, on a trop tiré sur la corde avec lui et donc maintenant il est blessé, il a besoin de se reposer, donc il va revenir j'espère en pleine forme. T'as que des joueurs comme voilà, c'est Spinazzola qui peut rechuter aussi de temps en temps. Et après les autres joueurs, Mourinho il aimait mais sans avoir une confiance absolue. Les seuls vraiment qu'il a une confiance absolue, c'est Mancini et Cristante. Là il a une confiance absolue à ces joueurs-là et Lukaku qui voilà qui fait le taf qui voilà. Après le reste il a pas il, est, il y a un turnover qui est fait hein. C'est Zaleski, Spina à gauche comme Çelik, Karsdorp, Christensen à droite. Il a pas d'arrière droit fixe, il a pas d'arrière gauche fixe. Le milieu il fait avec ce qu'il a le pauvre Azmoun il lui fait pas confiance encore voilà. El Shaarawy lui a fait confiance parce qu'il a fait deux bons matchs là C'est compliqué. Il a pas un 11 type vraiment et donc contre Inter compliqué.
Ben merci beaucoup, Rabal. On va conclure en
Merci.
rappelant un peu ton travail. Donc, vous pouvez suivre sur Twitter et donc ton travail à voir en vidéo sur YouTube. Et tu as notamment sorti donc une vidéo revenant sur le match d'hier. Donc, c'est ça, hein, contre la Roma.
Alors c'est vraiment un tout petit débrief rapide de 2 minutes parce qu'en fait hier il y a eu une grosse panne générale sur YouTube donc en fait tous les lives de tous les streamers étaient entachés de bugs donc j'ai fait une vidéo vite fait de 2 minutes mais j'invite les gens à aller ce soir sur Instagram sur Amouroma. Il y a une émission, on va revenir justement sur le match de hier soir. Et donc oui, c'est ça sur YouTube, c'est Rabal, Romain Gouta, Amouroma.fr le blog, et Espoir francophone des réseaux sociaux.
Ah bah très bien, encore un grand merci. Et
Un
nous,
grand merci.
on se retrouve la prochaine fois. Je ne sais pas, à chaque fois, c'est un peu aléatoire avec Cédric. On ne sait pas quand on sort les podcasts. Moi, je dirais que, vu un peu le calendrier, on fera quelque chose avant ou après le match contre la Juve. Je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.
C'était Canal Inter avec Giuliano De Pasquale et Cédric Canale. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Et pour toutes les coulisses depuis Milan, suivez-les sur Twitter et Instagram. Alla prossima, fratelli nell'azzurri.